Un premier amour, chapitre 3. Dans le cours des 5 ou 6 jours suivants, je ne vis presque pas Zinaïda. Elle se disait malade, ce qui n'empêchait pas les hôtes ordinaires de la maison d'y paraître pour faire leur service, suivant leur expression. Maïdanov fut le seul qui suspendit ses visites. Il s'ennuyait et tombait dans un état de langueur dès qu'il ne trouvait plus l'occasion d'exercer son facile enthousiasme. Vyazovsorov se tenait assis d'un air maussade dans un coin, boutonné jusqu'au cou et toujours rouge. Un sourire peu bienveillant errait sur la figure soucieuse du comte Malevski, qui était effectivement tombé en disgrâce auprès de Zinaïda. Mais il se montrait fort assidu auprès de la vieille princesse. Il l'accompagna même dans une voiture de louage chez le général gouverneur. Au reste, cette visite n'eut aucun résultat, et Malevski dut subir à cette occasion un petit désagrément. On lui rappela je ne sais quelle fâcheuse discussion qu'il avait eue avec des officiers du génie, et il ne put se justifier qu'en reconnaissant qu'il était alors fort inexpérimenté. Louchine venait jusqu'à 2 fois par jour, mais il ne restait pas longtemps. Je le craignais un peu depuis notre dernier entretien, et pourtant je me sentais attiré vers lui. Un jour que nous nous promenions ensemble dans le parc de Neskouchnoï, et qu'il m'enseignait d'un air affable et avec une grande bienveillance les noms et les propriétés de différentes plantes, il s'écria subitement, sans le moindre à propos et en se frappant le front, « Oh, et moi, imbécile que je suis, qui la prenais pour une coquette. Il paraît que le sacrifice de soi-même est chose agréable pour certaines natures. « Mais que voulez-vous dire par là ?» lui demandai-je. « Oh, je n'ai rien voulu vous dire, à vous !» me répondit-il brusquement. Zinaïda m'évitait. Ma présence lui causait, je ne pouvais pas m'empêcher de le remarquer, une impression désagréable. Elle se détournait de moi involontairement. Involontairement, voilà ce qui me désespérait. Mais que faire ? Je tâchais de ne pas me montrer à elle. Je dus me contenter de l'observer à la dérobée, ce qui était assez difficile. Il se passait toujours en elle quelque chose d'inaccoutumé. Sa figure changeait, elle devenait une toute autre personne. J'en fus surtout frappé par une chaude et belle soirée dans la circonstance suivante. J'étais assis sur un petit banc près d'un épais buisson de sureau. J'aimais beaucoup cette place. On pouvait apercevoir la fenêtre de la chambre de Zinaïda. Au-dessus de ma tête, un petit oiseau se trémoussait dans le sombre feuillage du buisson. Un chat gris se glissait avec précaution dans le jardin en allongeant le dos, et les premiers hannetons volaient lourdement dans l'air qui conservait encore sa transparence, quoique le jour commençât à baisser. J'avais les yeux arrêtés sur la fenêtre, espérant qu'elle viendrait peut-être à s'ouvrir. Elle s'ouvrit effectivement et Zinaïda parut. La robe qu'elle portait était blanche. Elle-même, sa figure, ses épaules, ses mains étaient pâles jusqu'à en paraître blanches aussi. Elle resta longtemps immobile et regarda longtemps, toujours sans bouger, les sourcils froncés. Je ne lui avais jamais vu un pareil regard. Bientôt après, elle joignit les mains avec force, les approcha de ses lèvres, de son front, puis elle rejeta tout à coup ses cheveux derrière ses oreilles, et ayant hoché la tête de haut en bas avec une sorte de résolution, elle referma la fenêtre. 2 ou 3 jours après, je la rencontrai dans le jardin. Je voulus prendre une autre allée, mais elle m'arrêta. « Donnez-moi la main, » me dit-elle avec autant de grâce qu'autrefois. « Il y a longtemps que nous n'avons pas bavardé ensemble. » Je la regardais. Ses yeux brillaient doucement et sa figure souriait, mais comme à travers un léger nuage. « Vous êtes toujours malade ?» lui demandai-je. « Non, tout est passé maintenant, » me répondit-elle. En cueillant une rose rouge. « Je suis encore un peu fatigué, mais cela passera aussi. Et vous redeviendrez ce que vous étiez? Lui demandai-je. Zinaïda approcha la rose de sa figure. Il me sembla que le reflet de cette fleur aux pétales éclatants éclairait ses joues. Ai-je donc changé? Me demanda-t-elle. Oh oui, vous avez changé, dis-je à mi-demi-voix. Oui, je vous ai montré de la froideur, je le sais, reprit Zinaïda. Vous n'auriez pas dû faire attention. Je ne pouvais pas agir autrement. Mais à quoi bon parler de cela? Vous ne voulez pas que je vous aime, voilà le fait, m'écriai-je, d'un air sombre et avec un mouvement involontaire. Non, aimez-moi toujours, mais pas comme avant. Comment cela? Soyons amis, voilà. Elle me donna à sentir la rose. Écoutez, je suis beaucoup plus âgé que vous. Je pourrais être votre tante, n'est-ce pas? Ou si ce n'est votre tante, du moins votre sœur aînée. Et vous? Oui, je suis pour vous un enfant, lui dis-je en l'interrompant. Eh bien, soit un enfant, mais un enfant aimable, bon, spirituel, que j'aime beaucoup. Savez-vous ce que je vais faire? Je vous nomme dès aujourd'hui mon page. Et n'oubliez pas que les pages ne doivent pas s'éloigner de leur châtelaine. Voici la marque de votre nouvelle fonction, ajouta-t-elle en plaçant la rose dans la boutonnière de ma redingote. Le signe de la faveur dont je vous honore. Oh, je recevais de vous autrefois d'autres faveurs, balbutiai-je. Ah, fit Zinaïda, et elle me regarda en penchant la tête. Quelle mémoire il a! Eh bien, j'y suis encore disposé. Et s'étant baissée, elle m'imprima sur le front un baiser tranquille. Je me bornai à la regarder. Elle se détourna en me disant « Accompagnez-moi, mon page !» Et elle rentra. Je la suivis en silence. « Est-il possible, me disais-je, tout en marchant derrière elle, que cette modeste et sage jeune fille soit la Zinaïda que j'ai connue? Sa démarche même me paraissait plus paisible et toute sa personne plus majestueuse et plus belle. Oh, grand Dieu, avec quelle force l'amour se ralluma dans mon cœur! Après le dîner, tous les autres accoutumés de la maison s'y réunirent et la jeune princesse vint nous trouver. On était au complet, comme ce premier soir à jamais mémorable pour moi. Nirmatski lui-même était présent, et Maïdanov arriva cette fois le premier de tous. Il apportait de nouvelles poésies. On se mit à jouer aux gages, touchés, mais sans les excentricités d'autrefois, sans folie et sans bruit. L'élément bohémien en était banni désormais. Zinaïda avait donné un autre caractère à notre petit cercle. J'étais assis près d'elle, comme j'en avais le droit en ma qualité de page. Elle proposa, entre autres choses, que celui dont le gage sortirait raconta un rêve. Mais cet essai ne réussit pas. Les rêves étaient, ou sans intérêt, Bielobsorlov avait vu un rêve qu'il nourrissait de goujons son cheval qui avait une tête de bois, ou bien inventé à plaisir et invraisemblable. Maïdanov nous conta toute une histoire. Il y fit paraître des scènes de tombeaux, des anges avec des lyres, des fleurs parlantes et des sons lointains qui arrivaient en flottant. Mais puisqu'il s'agit de composition, à ce que je vois, dit Zinaïda en l'interrompant, que chacun raconte quelque histoire de son invention. Ce fut encore Bielobsorlov que le sort désigna le premier pour ce nouvel exercice. Le jeune hussard se trouve là. « Je ne peux rien inventer » s'écria-t-il. « Allons donc, reprit Zinaïda. Eh bien, figurez-vous par exemple que vous êtes marié et racontez-nous comment vous passeriez le temps avec votre femme. » Vous la tiendriez enfermée? Oui. Et vous resteriez auprès d'elle. Ne la quitterait certainement pas. Fort bien. Mais si, ne trouvant pas cela de son goût, elle vous trompait, oh, je la tuerais. Et si elle prenait la fuite, ben je la poursuivrais et je la tuerais tout de même. Bien. Mais supposons que moi, je fusse votre femme, que feriez-vous alors? Miloslav resta quelques instants pensif. Ben je me tuerais. Zinaïda se mit à rire. Je vois que vous êtes expéditif. Le second gage qui sortit était celui de Zinaïda. Elle leva les yeux au plafond et réfléchit. Bien voici, dit-elle enfin. Écoutez ce que j'ai imaginé. Figurez-vous un vaste palais, une nuit d'été, et un bal d'une magnificence extraordinaire. Ce bal est donné par une jeune reine. Tout y est rassemblé, marbre, or, cristaux, soie, lumière, diamants, fleurs, parfums, en un mot, toutes les créations du luxe y sont prodiguées. « Vous aimez le luxe ?» dit Louchine en l'interrompant. « Le luxe est élégant, » répondit-elle. « J'aime tout ce qui est élégant. »« Plus que le beau ?» reprit-il. « Cela me paraît un peu trop subtil. Je ne vous comprends pas. » Mais ne m'interrompez plus. Ainsi donc, le bal est magnifique, l'assemblée est nombreuse, tous les hommes sont jeunes, beaux, braves, tous sont amoureux de la reine. Ah, il n'y a donc pas d'autre femme à votre bal, demanda Malevski. Non, attendez. Oui, il y en a. Elles sont toutes laides, sans doute, admirables de beauté. Mais tous les hommes sont amoureux de la reine. Elle est grande et bien faite, elle porte un petit diadème d'or sur sa chevelure noire. Je regardais Zinaïda, et elle me parut en ce moment tellement supérieure à nous tous. Son front blanc et ses sourcils immobiles rayonnaient d'une intelligence tellement lumineuse et d'une telle autorité que je me dis, mais c'est toi qui es cette reine. On se presse autour d'elle, continua Zinaïda. Chacun lui adresse les propos les plus flatteurs. Ah, elle aime la flatterie, demanda Louchine. Oh, mais vous êtes insupportable, vous m'interrompez toujours. Et qui donc n'aime pas la flatterie? Encore une question, dit Malevski. La reine a-t-elle un mari? Non, je n'y avais pas songé. Non, oh, à quoi bon un mari? « Certainement, reprit Malevski, à quoi bon un mari ?»« Silence !» s'écria Maïdanov, quoiqu'il parlât mal le français. « Merci !» lui dit Zinaïda. « Ainsi donc, continua-t-elle, la reine écoute ses propos. Elle écoute aussi la musique, mais du reste, elle ne fait attention à personne. Les fenêtres sont toutes grandes ouvertes, du plancher au plafond. Elle laisse voir un ciel sombre avec de grandes étoiles et un jardin également sombre avec de grands arbres. La reine regarde dans le jardin. Au pied des arbres est un jet d'eau. Il paraît blanc au milieu des ténèbres et long, long comme un fantôme. La reine entend, au milieu des conversations et de la musique, le bruit de l'eau murmurante. Elle regarde autour d'elle et se dit « Vous êtes tous nobles, spirituels, riches. Vous vous pressez autour de moi. Vous admirez chacune de mes paroles. Vous seriez tous heureux de mourir à mes pieds. Je règne sur vous. » Et là-bas, près du jet d'eau, près de cette eau qui murmure, se tient et m'attend celui que j'aime et à qui j'appartiens. Il n'a point de riches costumes ni de pierres précieuses. Personne ne le connaît, mais il m'attend. Et il est certain que je viendrai. Oui, j'irai. Aucune puissance ne saura me retenir lorsqu'il me dira de l'aller rejoindre et de rester avec lui, et de me perdre avec lui dans le jardin sombre, au bruissement des arbres, au murmure du jet d'eau. Zinaïda se tut. C'est imaginaire? Demanda finement Malevski. Zinaïda ne le regarda même point. Et qu'aurions-nous fait, messieurs? Dit tout à coup Louchine. Si nous avions été au nombre des invités et que le préféré, l'homme au jet d'eau, nous fût connu. Attendez, attendez, reprit vivement Zinaïda. Je vais vous dire moi-même ce que chacun de vous eût fait. Vous, Bielovtsalov, vous l'auriez provoqué en duel. Vous, Maïdanov, vous auriez fait contre lui une épigramme. Mais non, vous ne savez pas faire l'épigramme. Vous l'auriez pris pour sujet d'une longue pièce d'iambe, comme celle de Barbier, et vous auriez inséré votre œuvre dans le télégraphe. Vous, Nirmatski, vous lui auriez emprunté, non, vous lui auriez prêté de l'argent à intérêt. Vous, docteur, elle s'arrêta. Oh, je ne sais vraiment pas ce que vous auriez fait. En ma qualité de médecin ordinaire de Sa Majesté, répondit Louchine. J'aurais conseillé à la reine de ne point donner de bal, puisqu'elle a mieux à faire que de songer à ses hôtes. Peut-être auriez-vous eu raison. Et vous, comte? Et moi? Reprit Malevski avec son sourire louche. Vous lui auriez offert un bonbon empoisonné. La figure de Malevski se contracta un peu et prit pour un instant une expression judaïque. Mais il se mit aussitôt à rire. Quant à vous, Voldemar, continua Zinaïda, allez au reste, en voilà assez, mettons-nous à un autre jeu. En sa qualité de page, dit méchamment Malevski, Monsieur Voldemar devrait tenir la queue de la reine lorsqu'elle descend dans le jardin. Je rougis de colère, mais Zinaïda me posa la main sur l'épaule. Et s'étant levée, elle reprit d'une voix un peu tremblante. Je n'ai pas accordé à votre Excellence le droit d'être impertinent, et c'est pourquoi je vous prie de vous éloigner. Elle lui montra la porte. Comment, princesse? Répondit Malevski en pâlissant. La princesse a raison, s'écria Belovsorov, et il se leva aussi. Je vous jure que je ne m'attendais nullement, continua Malevski. Il me semble que rien dans mes paroles, je n'ai pas eu la moindre idée de vous blesser. Pardonnez-moi. Zinaïda jeta sur lui un regard plein de mépris et sourit froidement. Restez si vous le voulez, dit-elle avec un geste dédaigneux. C'est à tort que Monsieur Voldemar et moi nous nous sommes fâchés. Il vous semble doux de mordre le prochain, grand bien vous fasse. Excusez-moi, répéta Malevski. En me rappelant le geste de Zinaïda, je me dis encore une fois qu'une véritable reine ne montrerait pas avec plus de dignité la porte à un insolent. Le jeu ne continua pas longtemps après cette petite scène. Chacun était préoccupé, non pas tant de l'altercation même, que du sentiment un peu vague mais pénible qu'elle avait fait naître. Personne n'en parlait, mais chacun éprouvait ce sentiment et le reconnaissait chez son voisin. Maïdanov nous lut de ses vers et Malevski les loua avec un enthousiasme exagéré. Comme il cherche maintenant à paraître bon, me glissa Louchine à l'oreille. Nous ne tardâmes pas à nous séparer. Zinaïda était devenue tout à coup pensive. La princesse envoya prévenir qu'elle avait la migraine. Nirmaski commençait à se plaindre de ses rhumatismes. Je fus longtemps sans m'endormir. Le récit de Zinaïda m'avait frappé. Est-ce bien une allusion, me demandai-je, et sur qui et à quel propos aurait-elle imaginé cette fable? Et s'il y avait réellement lieu d'imaginer pareille chose, comment se décider? Non, non, c'est impossible, me disais-je à voix basse, en me tournant sur mon oreiller. Mais je me rappelais l'expression qu'avait la figure de Zinaïda pendant ce récit. Je me rappelais l'exclamation qui avait échappé à Louchine dans le parc de Neskouchnoï, le brusque changement qui s'était fait en elle à mon égard, et me perdait dans conjecture. Mais qui est-ce? Ces trois mots semblaient tracés devant mes yeux au milieu de l'obscurité. Un nuage là-bas et de mauvais augure me paraissait suspendu au-dessus de ma tête. Je sentais sa pression et me disais « Ah, voilà qu'il va éclater !» Je m'étais fait un genre de vie tout nouveau dans ces derniers temps. J'avais appris à connaître bien des choses chez les Assekines. Le désordre de leur maison, ses bouts de chandelle, ses couteaux et ses fourchettes cassées, le sombre Bonifaci, la femme de chambre presque déguenillée, la tenue de la princesse elle-même, toute cette étrange existence ne me surprenait plus. Mais il m'était impossible de m'accoutumer à ce que je commençais à entrevoir confusément chez Zinaïda. « C'est une aventurière, » avait dit une fois ma mère en parlant d'elle. « Une aventurière? Elle, mon idole, ma divinité ?» Ce mot cruel me brûlait. Je cherchais à le fuir en m'enfonçant dans mon oreiller. Je le maudissais. Et pour quand? À quoi n'aurais-je pas consenti? À qui n'aurais-je pas donné? Pour être l'homme favorisé qui attendait auprès du jet d'eau. Mon sang s'était enflammé et circulait avec violence. Le jardin, la pièce d'eau, me dis-je. Je vais aller dans le jardin. M'étant habillé à la hâte, je me glissais hors de la maison. La nuit était sombre, le feuillage murmurait à peine. Une légère fraîcheur tombait des airs et une odeur de fenouil venait du fond du potager. Je parcourus toutes les allées. Le bruit de mes pas m'excitait et me donnait une sorte de hardiesse. Lorsque je m'arrêtais pour écouter, j'entendais les battements pleins et rapides de mon cœur. Je m'approchai enfin de la clôture et m'appuyai sur une mince traverse. Tout à coup, mais j'en doutais d'abord, une forme de femme apparut à quelques pas de moi. Je plongeai les yeux dans l'obscurité, je suspendis ma respiration. Qu'est-ce que cela peut être? Est-ce un bruit de pas ou encore les battements de mon cœur? Qui est là? Balbutiai-je confusément. Qu'est-ce donc encore? Serait-ce un rire étouffé, ou bien le frôlement de quelques feuilles, ou un soupir exhalé à mon oreille? La peur me prit. Mais qui est là? Répétai-je d'une voix encore plus faible. Le ciel s'éclaira. Un trait de feu le traversa rapidement. C'était une étoile filante. Je voulus dire « Zinaïda », mais ce nom expira sur mes lèvres. Peu de temps après, un profond silence m'entourait de nouveau, comme cela arrive souvent au milieu de la nuit. Les grillons même avaient cessé de chanter dans les arbres. Seulement une porte cria quelque part. J'écoutais encore longtemps, puis je rentrais dans ma chambre et me couchai sur mon lit qui avait perdu sa chaleur. J'étais dans un trouble étrange. Il me semblait que j'avais été à un rendez-vous et que j'étais resté seul, que j'avais passé près du bonheur d'un autre. Le lendemain, je ne vis Zinaïda qu'un moment. Elle s'était rendue, je ne sais où, avec sa mère, en voiture de place. Mais en revanche, je rencontrai Louchine, qui me fit un accueil assez froid, et le comte Malevski. Ce dernier m'abandonna en souriant et se mit à causer avec moi. C'était le seul de tous les hôtes ordinaires de la princesse qui fut parvenu à s'introduire chez nous et qui plaisait à ma mère. Mon père ne l'aimait pas. Il le recevait avec une politesse blessante. « Ah, monsieur le page, me dit Malevski, je suis charmé de vous rencontrer. Que devient votre charmante reine ?» Sa figure agréable et fraîche me causa en ce moment une telle impression de dégoût et l'enjouement de son regard avec quelque chose de si méprisant que je ne lui répondis même pas. « Vous êtes toujours fâché, continua-t-il. Vous avez tort. Ce n'est pas moi qui vous ai donné le titre de page, et les pages se trouvent ordinairement auprès des reines. Mais permettez-moi de vous faire remarquer que vous remplissez mal vos fonctions. » Comment cela? Mais les pages ne doivent pas quitter leur souveraine. Les pages doivent savoir tout ce qu'elles font. Ils doivent même les surveiller, ajouta-t-il en baissant la voix, le jour et la nuit. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, il me semble que je m'explique clairement. Le jour et la nuit. Le jour passe encore, il fait clair alors, et l'on est en vue, mais la nuit, il peut facilement arriver malheur. Je vous conseille de ne pas dormir la nuit et d'observer avec la plus grande vigilance. Rappelez-vous, la nuit dans le jardin, voilà où il faut faire bonne garde. Vous me serez gré du conseil. » Malevski, qui semblait ne pas attacher une grande importance à ses paroles, se mit à rire et me tourna le dos. Il passait pour un habile mystificateur. Il excellait à intriguer les gens dans les bals masqués, espèce de mérite qu'il devait à la duplicité innée de sa nature. C'était probablement pour me mystifier qu'il avait tenu ce langage. Mais chacune de ses paroles avait pénétré dans mon sein comme un poison subtil. Le sang me monta à la tête. « Ah, c'est comme cela, dis-je, bien, bien. Mes pressentiments d'hier étaient donc fondés. Ce n'est donc pas sans raison que je me sentais attiré dans le jardin. Mais cela ne sera pas, m'écriai-je en me frappant la poitrine avec le poing, quoique je ne susse pas au juste ce que je voulais dire par là. Que ce soit Malevski qui daigne venir dans le jardin, il était assez impudent pour qu'on puisse le supposer coupable d'indiscrétion, ou tout autre. La clôture de notre jardin était très basse et il était très facile de la franchir. Malheur à celui qui me tombera sous la main. Je ne conseille à personne de hasarder la rencontre. Je prouverai au monde entier et à elle, la perfide. Oui, c'est bien le nom que je lui donnais, que je sais me venger. Je regagnai ma chambre et je tirai de mon secrétaire un couteau anglais que j'avais récemment acheté. J'en tâtai le tranchant effilé, je fronçai les sourcils et mis le couteau dans ma poche avec une décision froide et concentrée, comme si les actes de ce genre me fussent habituels. Mon cœur était gonflé de haine, et je restais jusqu'à la nuit dans la même disposition, rôdant silencieusement de côté et d'autre, pressant le couteau dans ma poche jusqu'à le rendre brûlant, et me préparant d'avance à quelque chose de terrible. Cet état moral dans lequel je me trouvais pour la première fois m'absorbait et me plaisait à un tel point que je songeais bien moins à Zinaïda qu'à ma vengeance. Je me rappelais à l'écho le jeune bohémien. « Où vas-tu, beau jeune homme? Reste là et meurs couché. » Et puis ces autres paroles. « Tu as tout couvert de sang. Oh, qu'as-tu fait? Rien. » Avec quel sourire cruel je répétais ce « rien ». Mon père n'était pas à la maison, mais ma mère, qui se trouvait depuis quelque temps dans un état presque continuel de sourde irritation, remarqua mon air tragique et me dit à souper « Mais quelle mine étrange! T'as l'air d'un rat sur un tas de grains !» Je me bornai à lui répondre par un sourire de condescendance et me dis oh, « si elle savait !» 11 heures sonnèrent, je remontai dans ma chambre, mais ne me déshabillai pas, car j'attendais que la pendule marquât minuit. Elle sonna enfin. « Allons, » murmurai-je entre les dents, et puis m'étant boutonné jusqu'au cou, ayant même retroussé mes manches, je me dirigeais vers le jardin. J'avais déjà choisi l'endroit où je comptais me mettre en sentinelle. Au fond du jardin, là où la clôture qui séparait nos possessions de celle des Assekines rejoignait le mur principal, s'élevait un sapin solitaire. En me tenant sous les branches épaisses qui le garnissaient à sa base, je pouvais fort bien distinguer, autant que l'obscurité de la nuit le permettait, ce qui se faisait autour de moi. Près de ce lieu retiré, serpentait en outre un petit chemin auquel j'avais toujours trouvé quelque chose de mystérieux. Il passait sous la clôture qui portait en ce point des traces d'escalade et conduisait à un bosquet rond formé d'acacias très touffus. Je gagnai le sapin, m'appuyai contre son tronc et me mis à observer. La nuit était aussi calme que la veille, mais il y avait moins de nuages au ciel, et le contour des buissons et même les tiges des grandes fleurs étaient plus distincts. Les premières minutes d'attente me parurent accablantes. J'en étais presque effrayé. Cependant, ma résolution n'avait point faibli. Je me demandais seulement comment il fallait agir. Convenait-il de m'écrier d'une voix tonnante: Où vas-tu? Arrête! À vous tous, la mort! Ou bien valait-il mieux me borner à frapper? Chaque son, chaque frôlement, le moindre bruissement me paraissait significatif, inaccoutumé. Je me tenais prêt, je me penchais en avant. Une demi-heure, une heure se passèrent ainsi. Mon sang se calma, ma tête se refroidit, et le cours de mes pensées changea. Je commençais à mettre en doute l'utilité de ma démarche. Je me sentais assez disposé à croire qu'elle était même absolument exempte de ridicule et que Malevski pouvait fort bien s'être moqué de moi. Je quittai mon poste et parcourus tout le jardin. Comme un fait exprès, on n'y entendait pas le plus léger bruit. Notre chien lui-même dormait roulé en cercle à l'entrée de la porte. Je grimpais sur les ruines de l'orangerie. La vaste plaine qui s'étendait au loin me rappela ma rencontre avec Zinaïda et je me mis à rêver. Je tressaillis. J'avais cru distinguer le cri d'une porte qui s'ouvrait, puis le bruit léger d'une branche que l'on cassait. En 3 bonds, je fus au pied de la ruine et restai immobile. Des pas rapides, légers mais prudents, se faisaient clairement entendre dans le jardin. Ils s'approchaient. Ah, c'est lui, le voici enfin, fut la première pensée qui me traversa le cœur. Je tirai avec précipitation mon couteau de ma poche. Je l'ouvris convulsivement. Je ne sais quelles étincelles rouges tourbillonnèrent devant mes yeux. Un frisson d'effroi et de colère me prit aux cheveux. Les pas venaient directement sur moi. Je me baissais et m'avançais aussi lentement à leur rencontre. Un homme parut. Grand Dieu! C'était mon père! Je le reconnus sur-le-champ. Il était pourtant soigneusement enveloppé d'un manteau de couleur sombre, le chapeau enfoncé sur les yeux. Il passa en marchant sur la pointe des pieds et ne me vit pas, quoique je fusse à découvert. Mais j'étais tellement ramassé sur moi-même que je devais presque me trouver au niveau du sol. Et le jaloux Othello, qui allait commettre un meurtre, se transforma soudain en écolier. Je fus tellement effrayé par l'apparition de mon père que je ne remarquais même pas d'où il venait ni comment il avait disparu. Je me levai et ne m'adressais cette question: Mais pourquoi mon père se promène-t-il la nuit dans le jardin? que lorsque tout fut rentré autour de moi dans le silence. J'avais laissé tomber mon couteau de peur et ne songeais pas à le chercher dans l'herbe. J'étais tout honteux. Mon ivresse s'était subitement dissipée. En revenant à la maison, je m'approchai pourtant du banc qui était sous le buisson du sureau et jetai les yeux sur la fenêtre de la chambre à coucher de Zinaïda. Les vitres étroites et un peu rebondies bleuissaient confusément à la faible clarté que le ciel répandait à cette heure de la nuit. Tout à coup, leur couleur commença à changer. Derrière elle, je le voyais distinctement, s'abaissait doucement et avec précaution un store blanchâtre. Il s'abaissa jusqu'au bas de la fenêtre et resta ensuite immobile. « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» me demandai-je à haute voix et presque involontairement, lorsque je fus rentré dans ma chambre. « Est-ce un rêve, un hasard ou bien... » Les suppositions qui me vinrent subitement à l'esprit étaient si nouvelles et si étranges que je n'osais même pas m'y abandonner. Je me levai avec un grand mal de tête. L'agitation de la veille avait fait place à une incertitude pénible et à une sorte de tristesse inconnue, comme si quelque chose se mourait en moi. « Qu'avez-vous ? » me dit Louchine en me rencontrant. « Vous avez l'air d'un lapin auquel on aurait enlevé la moitié de la cervelle. » Pendant le déjeuner, je regardais à la dérobée tantôt mon père, tantôt ma mère. Il était aussi calme qu'à l'ordinaire. Elle paraissait irritée, suivant son habitude. J'espérais que mon père se mettrait à causer amicalement avec moi, comme il lui arrivait quelquefois de le faire. Mais il ne m'accorda même pas sa caresse quotidienne, la caresse qu'il me donnait avec tant de froideur. Si je le comptais à Zinaïda, pensais-je, et pourquoi pas? Tout est fini entre nous. Je me rendis chez elle, mais je ne lui confiai rien. Il me fut même impossible de causer comme avec elle comme je l'aurais voulu. Son frère, cadet d'une douzaine d'années, était arrivé de Pétersbourg pour passer les vacances. Zinaïda me le présenta sur le champ. « Mon cher Volodia, me dit-elle, c'était la première fois qu'elle me donnait ce nom. Je vous prie d'accueillir ce camarade. Il se nomme aussi Volodia. Aimez-le, je vous en prie. Il est encore un peu sauvage, mais il a bon cœur. Montrez-lui Neskouchnoï. Promenez-vous avec lui. Prenez-le sous votre protection. N'est-ce pas que vous me ferez plaisir? Vous aussi, vous êtes si bon. » Elle me posa amicalement la main sur les épaules. Et moi, j'étais tout éperdu. L'arrivée de ce cadet me changeait moi-même en un écolier. Je le regardais silencieusement. Il me considérait de son côté sans ouvrir la bouche. Zinaïda éclata de rire et nous poussa l'un contre l'autre. « Embrassez-vous donc, enfant !» Nous nous embrassâmes. « Voulez-vous que je vous conduise au jardin ? » demandai-je au cadet. « Je le veux bien, » répondit-il d'une voix un peu enrouée, vraie voix de cadet. Zinaïda se mit de nouveau à rire. Après avoir observé que jamais encore elle n'avait eu de si belles couleurs, je m'éloignai avec son frère. Il y avait dans notre jardin une vieille balançoire. Je le plaçai sur la planchette et je me mis à le balancer. Il était assis, mobile, dans son uniforme neuf de gros drap bordé de larges garlons d'or, et se tenait cramponné aux cordes. « Mais déboutonnez donc votre collet, » lui dis-je. « Oh, ça fait rien, nous y sommes habitués, » me répondit-il. Il se mit à tousser. Il ressemblait à sa sœur. Ses yeux, surtout, rappelaient ceux de Zinaïda. J'étais bien aise de pouvoir lui être agréable, mais la même tristesse me rongeait toujours sourdement le cœur. « Maintenant, je suis réellement un enfant, » pensais-je. « Et hier encore, je me souvins de mon couteau et j'allais le ramasser à l'endroit où je l'avais laissé tomber la veille. » Le cadet me le demanda, arracha une épaisse tige de livèche, se tailla une flûte et commença à en jouer. Othello s'essaya aussi sur cet instrument. Mais aussi, comme dans la soirée, ce même Othello arrosa de larmes les mains de Zinaïda, lorsque celle-ci, l'ayant découvert dans un coin du jardin, lui demanda pourquoi il était si triste. Mes sanglots éclatèrent avec une telle force qu'elle en fut effrayée. « Qu'avez-vous, qu'avez-vous ? » répétait-elle. Et voyant que je ne lui répondais pas et ne cessais de pleurer, elle voulut baiser ma joue mouillée de larmes. Mais je me détournai et balbutiai à travers mes sanglots. « Je sais tout. Pourquoi vous êtes-vous joué de moi ? Quel besoin aviez-vous de mon amour ? Je suis coupable envers vous, Volodia, me dit Zinaïda. Oui, je suis très coupable, ajouta-t-elle en joignant les mains. Oh, il y a beaucoup de mauvais en moi. Mais maintenant, je ne me joue plus de vous. Je vous aime, vous ne vous doutez pas pourquoi ni comment. Au fait, que savez-vous donc ? Que pouvais-je lui répondre ? Elle se tenait devant moi et me regardait. Et moi, je lui appartenais complètement aussitôt qu'elle me regardait. Au bout d'un quart d'heure, je courais de nouveau avec le cadet et Zinaïda dans les taillis. Je ne pleurais plus, je riais. Et pourtant mes paupières étaient tellement gonflées par les larmes que mon rire même les faisait tomber. Je portais au cou un ruban de Zinaïda en guise de cravate. Et lorsque, en la poursuivant, je parvenais à la saisir par la taille, je poussais un cri de joie. Elle faisait de moi tout ce qu'elle voulait. Je serais dans un grand embarras si l'on me demandait de rapporter minutieusement toutes les émotions par lesquelles je passais dans le cours de la semaine qui suivit ma malencontreuse expédition. J'étais dans un état bizarre, fiévreux, indicible. Les sentiments les plus contraires, les pensées, les soupçons, les espérances, les joies et les souffrances les plus variées tourbillonnaient en moi. Je craignais de m'examiner, si toutefois un enfant de 16 ans peut le faire. Je craignais de me rendre compte de quoi que ce fût. Je me contentais de passer rapidement les journées. La nuit, je dormais. L'insouciance de l'enfance venait à mon secours. Je ne voulais pas savoir si j'étais aimé et ne voulais pas m'avouer à moi-même que je ne l'étais pas. J'évitais mon père, mais je ne pouvais pas éviter Zinaïda. Je me sentais consumé par un feu intérieur en sa présence. Mais à quoi m'eût servi de savoir quel était le feu qui me brûlait et m'épuisait, puisqu'il m'était doux de le ressentir et d'être épuisé? Je m'abandonnais à toutes mes impressions, me trompant moi-même, repoussant mes souvenirs et fermant les yeux devant l'avenir que je prévoyais. Ce supplice m'aurait probablement pas duré longtemps, mais un coup de foudre subit détruisit tout et me jeta dans une autre voie. Rentré un jour pour le dîner, après une promenade assez longue, j'appris avec surprise que je dînerais seul. Mon père était sorti et ma mère, étant malade, n'avait pas faim et ne voulait voir personne. Je devinais à la figure des laquais qu'il était arrivé quelque chose d'extraordinaire. Je n'osais pas les interroger, le vieux Fédor surtout. Mais j'avais un ami, un jeune domestique de l'office, nommé Philippe, passionné pour la poésie et grand joueur de guitare. C'est à lui que je m'adressais. Il m'apprit qu'une scène terrible avait eu lieu entre mon père et ma mère. Tout avait été entendu dans la chambre des femmes. Bien des choses s'étaient dites en français, mais Macha, servante qui avait fait 5 ans d'apprentissage chez une couturière de Paris, comprenait cette langue. Ma mère avait reproché à mon père de lui être infidèle, d'avoir fait la connaissance de la demoiselle de la maison voisine. Mon père avait d'abord cherché à se justifier, puis il s'était emporté et avait répondu à son tour, ajouta le petit domestique en baissant la voix, quelques paroles blessantes, comme qui dirait sur l'âge de madame, et celle-ci s'était mise à pleurer. Ma mère avait aussi parlé d'une lettre de change donnée, suivant elle, à la vieille princesse, dont elle avait dit beaucoup de mal, ainsi que de sa fille, et alors mon père l'avait menacée. « Toute l'histoire provient d'une lettre anonyme, » ajouta Philippe, « et l'auteur de cette lettre est resté inconnu, sans quoi rien de tout cela ne se serait découvert. « Mais il y a donc eu quelque chose, » dis-je avec effort. Mes mains et mes pieds se glaçaient, et je sentais un tremblement au fond de ma poitrine. Philippe cligna des yeux d'un air significatif. « Sans doute, ces choses-là sont difficiles à cacher. Votre père est pourtant bien prudent dans ces affaires-là, mais on ne peut pas se passer, par exemple, de louer une voiture ou que sais-je. Il faut toujours avoir affaire aux gens. » Je renvoyais Philippe et tombais sur mon lit. Je ne sanglotais pas. Je ne me livrais pas au désespoir. Je ne me demandais pas comment et quand tout cela s'était fait. Je ne m'étonnais pas de ne pas l'avoir deviné depuis longtemps et ne songeais même pas à en vouloir à mon père. Ce que je venais d'apprendre était au-dessus de mes forces. Cette découverte subite m'avait anéanti. Tout était fini. Toutes mes fleurs avaient été arrachées d'une seule fois et je les voyais dispersées, foulées aux pieds, autour de moi. Ma mère fit savoir le lendemain qu'elle allait retourner à la ville. Le matin, mon père entra dans sa chambre à coucher et resta longtemps seul avec elle. Personne n'entendit ce qu'il lui dit, mais ma mère cessa de pleurer. Elle s'apaisa et demanda à manger. Cependant, elle resta dans sa chambre et ne changea pas de résolution. Je me souviens que j'errais toute la journée, mais je ne mis pas les pieds dans le jardin et ne jetai pas une seule fois les yeux sur la maison voisine. Le soir, je fus témoin d'un fait singulier. Mon père traversa la salle en tenant le comte Malevski par le bras, et dans l'antichambre, devant tous les laquais, il lui dit froidement « Il y a quelques jours, monsieur, que l'on vous a montré la porte dans une autre maison. Je ne veux pas vous donner d'aujourd'hui d'explication, mais j'ai l'honneur de vous déclarer que s'il vous arrivait de me favoriser encore une fois de votre visite, je vous jetterai par la fenêtre. Votre écriture ne me plaît pas. » Le comte s'inclina en serrant les dents et disparut. Des préparatifs de départ commencèrent. La maison que nous habitions à Moscou et qui nous appartenait était située à l'Arbat. Il est probable que mon père lui-même ne se souciait plus de rester à la campagne. Mais il avait obtenu de ma mère, à ce qu'il paraît, de ne pas faire d'esclandre. On se disposa à partir avec calme, sans se presser. Ma mère envoya même saluer la princesse et lui fit exprimer le regret qu'elle éprouvait d'être empêchée par sa maladie de la voir avant son départ. Quant à moi, j'étais comme fou et ne souhaitais qu'une chose, c'était que tout cela se terminât au plus vite. Une seule pensée me poursuivait sans cesse. Je ne comprenais pas comment une jeune fille de son âge, et princesse après tout, avait pu se décider à une pareille aventure, sachant que mon père n'était pas libre, tandis qu'il ne tenait qu'à elle de se marier, avec Bielsorov, par exemple. Et que pouvait-elle espérer? Comment n'avait-elle pas craint de perdre tout son avenir? Oh, pensais-je, c'est de l'amour, de la passion, c'est vraiment là du dévouement. Et je me rappelais ces paroles de Louchine. Certaines personnes aiment à se sacrifier. Il m'arriva, je ne sais comment, d'apercevoir à l'une des fenêtres de la maison voisine comme une tache blanche. Serait-ce la figure de Zinaïda? Me demandai-je. Effectivement, c'était elle. Je ne pouvais partir sans lui dire un dernier adieu. Je saisis un moment favorable et me dirigeai vers la maison voisine. La vieille princesse était au salon et elle m'accueillit avec le sans-gêne qui lui était habituel. « Mais comment se fait-il, mon cher, que les vôtres se mettent en mouvement de si bonne heure ?» me dit-elle en se bourrant de tabac et de narines. Je la regardai. et mon cœur se sentit soulagé. Le mot de lettre de change qu'avait prononcé Philippe me tourmentait. Elle ne se doutait de rien, ou du moins, je le crus dans le moment. Zinaïda sortit de la chambre voisine en robe noire, pâle, les cheveux pendants. Elle me prit la main en silence et m'entraîna avec elle. « J'ai reconnu votre voix, me dit-elle, et aussitôt je suis accouru. Comment vous auriez pu nous quitter comme cela, méchant enfant ?»« Je suis venu vous faire mes adieux, princesse, lui répondis-je, et probablement pour toujours. Vous savez sans doute que nous allons partir. » Zinaïda me regarda fixement. « Oui, oui, je l'ai appris. Je vous remercie d'être venu. Je commençais à croire que je ne vous reverrai plus. Ne m'en voulez pas. Je vous ai tourmenté quelquefois, mais je ne suis pourtant pas tel que vous le pensez. » Elle se détourna et s'appuya contre la fenêtre. « Je vous assure que je ne suis pas ce que vous croyez. Je sais que vous avez mauvaise opinion de moi. » « Moi ? Oui, vous. Vous, moi ? » répétai-je avec amertume, et mon cœur tressaillit comme autrefois dans un transport d'adoration irrésistible. « Moi, oh, sachez, Zinaïda Alexandrovna, que vous pourrez tout faire de moi, me tourmenter tant qu'il vous plaira. Je vous aimerai et vous adorerai toujours jusqu'à la fin de ma vie. » Elle se tourna vivement vers moi. Ayant ouvert les bras, elle me prit la tête et me baisa avec force. Dieu sait à qui ce long baiser d'adieu était destiné. Cependant, j'en savourai avidement la douceur. Je savais qu'il ne se renouvellerait plus. « Adieu, adieu !» lui dis-je. Elle s'éloigna brusquement et sortit. Je ne saurais rendre le sentiment que j'éprouvais en me retirant. Je ne voudrais point qu'il se reproduisît jamais, mais je me croirais malheureux si je ne l'avais pas éprouvé une fois dans ma vie. Nous rentrâmes en ville. Je fus longtemps à me défaire du passé. Je fus longtemps à me remettre au travail. Ma plaie se cicatrisait lentement, mais je n'éprouvais pour mon père aucun sentiment mauvais. Au contraire, il avait encore grandi, pour ainsi dire, à mes yeux. Que les psychologues expliquent cela comme ils pourront. Un jour, en passant sur le boulevard, je rencontrai à mon inexprimable satisfaction le docteur Louchine. Je l'aimais pour son caractère droit et franc, et d'ailleurs il m'était devenu cher par les souvenirs qu'il réveillait dans mon esprit. Je courus à lui. « Ah ah !» dit-il en fronçant les sourcils. « C'est vous, jeune homme !» « Montrez-vous donc un peu. Oh, vous êtes encore jaune. Pourtant, les yeux sont meilleurs. Vous avez maintenant l'air d'un homme et non plus d'un petit chien de salon. C'est bien. Et le travail, vous l'avez repris ?» Je répondis par un soupir. Je ne voulais pas mentir et il m'en coûtait de dire la vérité. « Allons, ce n'est rien, reprit Louchine. Ne vous inquiétez pas de cela. » Avant tout, vivez d'une existence normale et ne cédez plus aux entraînements. À quoi bon? De quelque côté que pousse la vague, c'est toujours mauvais. Il faut qu'un homme se tienne debout quand ce serait sur une pierre. Tandis que moi, voyez comme je tousse. Et Malovsorov, savez-vous ce qu'il est devenu? Non, vraiment, je n'en sais rien. Il a complètement disparu. On dit qu'il est parti pour le Caucase. C'est une leçon pour vous, jeune homme. Et tout cela vient de ce qu'ils ne savent pas, se détacher à temps, rompre les filets. Mais vous, je crois que vous en êtes tiré heureusement. Faites bien attention, hein, ne vous laissez pas reprendre. Adieu. Cela ne m'arrivera plus, pensais-je. Je ne la reverrai plus. Mais il était dit que je rencontrerai encore une fois Zinaïda. Mon père sortait à cheval tous les jours. Il avait un magnifique alezan de race anglaise, au cou long et mince, aux jambes effilées. On l'appelait électrique. C'était une bête infatigable et méchante. Mon père était le seul qui put la monter. Un jour, il vint me trouver dans une bonne disposition d'esprit, ce qui ne lui était pas arrivé depuis longtemps. Il se préparait à sortir et avait déjà ses éperons. Je le suppliai de me prendre avec lui. « Jouons plutôt au cheval fondu, me dit-il, car jamais tu ne pourras me suivre sur ton petit poney. Si fait, je mettrai aussi des éperons. Eh bien, soit. » Nous partîmes. J'avais un petit cheval noir, au poil hérissé, très solide sur ses pieds et assez vif. Lorsque Électrique prenait le grand trot, il était obligé de galoper à toutes jambes, mais cependant, il ne restait pas en arrière. Je n'ai jamais eu de cavalier comme mon père. Il avait tant d'aisance et de grâce que son cheval semblait le comprendre et en être fier. Nous longeâmes tous les boulevards, nous traversâmes le champ des filles, et après avoir franchi plusieurs haies, je craignais d'abord de les sauter, mais mon père méprisait les poltrons, et je cessais d'avoir peur. Nous passâmes deux fois la Moskva. Je croyais que nous revenions à la maison, d'autant plus que mon père avait remarqué que mon cheval était fatigué, lorsque tout à coup il tourna bride près du gué de Crimée et se mit à suivre le rivage. Arrivé auprès d'un tas de vieilles poutres, il sauta lestement à bas de cheval, m'ordonna de descendre et me tendit la bride de sa monture. Il me dit de l'attendre là, entra dans une ruelle et disparut. Je me mis à marcher de long en large sur le bord de l'eau, conduisant les chevaux et me fâchant contre Électrique. Il ne faisait que tirer sur la bride, se secouer, souffler, hennir, et dès que je m'arrêtais, il se mettait à creuser la terre, tantôt d'un pied, tantôt de l'autre, mordait mon petit cheval au cou avec des hennissements aigus. En un mot, il se conduisait comme un vrai pur sang, abusant de la faveur avec laquelle on le traitait. Mon père ne revenait pas. La rivière répandait une humidité désagréable. Une pluie fine commençait à marquer de petites taches rousses les longues poutres grises auprès desquelles je marchais et dont j'étais fort ennuyé. Un bout d'otchenik d'origine finnoise, tout habillé de gris, coiffé d'un vieux énorme shako en forme de peau et une hallebarde à la main, je ne sais vraiment pas pourquoi un bout d'otchenik se trouvait sur les bords déserts de la Moskva, s'approcha des poutres. Ayant tourné vers moi sa figure jaune et ridée, il me dit « Que faites-vous là avec ces chevaux, je l'être? Donnez-les-moi, je les tiendrai. » Je ne lui répondis pas. Il me demanda du tabac. Afin de me débarrasser de lui, j'étais d'ailleurs fort impatienté, je m'avançais dans la direction qu'avait prise mon père. Arrivé au bout de la ruelle, je m'arrêtai. Dans la rue voisine, à une quarantaine de pas environ du lieu où je me tenais, j'aperçus mon père debout et me tournant le dos devant la fenêtre ouverte d'une petite maison de bois. Il avait la poitrine appuyée contre le bas de la fenêtre, et dans l'intérieur de la maison était assise une femme à demi cachée par un rideau et portant une robe foncée. Elle parlait avec mon père. Cette femme était Zinaïda. Je restais stupéfait. J'avoue que je n'aurais jamais supposé pareille chose. Mon premier mouvement fut de prendre la fuite. Mon père peut se retourner, me dit, je suis perdu. Mais un sentiment étrange, un sentiment plus puissant que la curiosité, plus puissant même que la jalousie, plus puissant que la peur, me retint à la même place. Je me mis à regarder et m'efforçai d'entendre leur conversation. Je crus comprendre que mon père insistait sur un point et que Zinaïda s'y refusait. Je vois encore sa figure triste, sérieuse, belle, exprimant à la fois le dévouement, le chagrin, l'amour et une sorte de désespoir, enfin, je ne sais quel autre mot employer. Elle parlait par monosyllabes, ne levait pas les yeux et se bornait à sourire d'un air d'humilité et d'obstination. Au sourire seul, je reconnus ma Zinaïda d'autrefois. Mon père haussa les épaules et raffermit son chapeau sur sa tête, ce qui chez lui était toujours une marque d'impatience. Peu d'instants après, je saisis les mots suivants prononcés par lui. « Vous devez vous séparer de cette... Zinaïda se redressa et tendit la main. Mais au même instant, je fus témoin d'un fait inouï. Mon père leva soudain la houssine avec laquelle il époussetait les pans de sa redingote couverte de poussière, et je crus entendre le bruit d'un coup sec appliqué sur ce bras découvert jusqu'au coude. Je faillis jeter un cri. Zinaïda tressaillit, regarda mon père en silence, approcha lentement son bras de sa bouche et y appuya ses lèvres. Mon père lança la houssine dans la rue, monta précipitamment les marches du vestibule et entra dans la maison. Je me hâtai de retourner sur mes pas, en proie à un trouble qui allait jusqu'à l'effroi, et je regagnai le bord de la rivière après avoir manqué de laisser échapper électrique. Je savais que mon père, ordinairement si froid et si maître de lui-même, avait quelquefois des accès de fureur, et pourtant je ne pouvais croire à la scène dont je venais d'être témoin. Mais je sentais en même temps que de ma vie, je n'oublierais ce mouvement, ni le regard, ni le sourire de Zinaïda. Je comprenais que cette nouvelle image, subitement reparue à ma vue, ne s'effacerait jamais de ma mémoire. Je regardais la rivière, sans savoir ce que je faisais, et sans remarquer que des larmes coulaient de mes yeux. « On la frappe !» pensais-je. « On la frappe !»« Eh bien, que fais-tu là? Donne-moi mon cheval !» cria mon père derrière moi. Je lui passai machinalement la bride. Il sauta sur électrique. Le cheval, transi de froid, se cabra et s'élança en avant à plus d'une toise de là. Mais mon père se rendit bientôt maître. Il lui enfonça les éperons dans les flancs et lui assena un coup de poing sur le cou. « Ah, je n'ai plus ma houssine !» dit-il entre ses dents. Cela me rappela le sifflement de cette houssine, le coup qui avait été donné, et je frémis. « Mais qu'en as-tu donc fait ?» demandai-je à mon père quelques instants après. Il ne me répondit pas et partit au galop. Je le rejoignis. Je voulais absolument voir sa figure. « Tu t'es ennuyé à m'attendre ?» me dit-il avec négligence. « Mon père, où as-tu donc laissé tomber ta houssine ?» lui demandai-je. Mon père me jeta un regard rapide. « Je ne l'ai pas laissé tomber, je l'ai jeté. » Il devint pensif et baissa la tête. C'est alors seulement que pour la première fois, et peut-être pour la dernière, il me fut donné de voir combien ses traits sévères pouvaient être altérés par la sensibilité. Il repartit au galop et je restai en arrière. Je n'arrivais à la maison qu'un quart d'heure après lui. « Voilà un amour véritable, » me dis-je encore une fois, assis la nuit devant ma table de travail, sur laquelle commençaient à reparaître des cahiers et des livres. « Voilà de la passion. Comment ne pas s'émouvoir? Comment supporter avec calme un coup de n'importe quelle main, de la main la plus chère? Il paraît que cela se peut lorsqu'on aime. Et moi? Et moi, qui me figurais, le dernier mois que je venais de passer m'avait singulièrement mûri et mon amour, avec tous ses tourments et ses agitations, ne me paraissait plus qu'un véritable enfantillage, comparé à ce sentiment mystérieux que je soupçonnais à peine et dont j'étais épouvanté, comme d'un visage inconnu et menaçant, quoique beau, que l'on s'efforce de distinguer au milieu de l'obscurité. Cette même nuit, j'eus un songe étrange et effrayant. Je me voyais dans une chambre basse et sombre. Mon père, debout, une houssine à la main, y frappait du pied. Dans un coin se tenait Zinaïda. Elle avait une marque rouge, non pas sur la main, mais sur le front. Derrière eux se dressait Belovsorov, tout couvert de sang, les lèvres pâles, entrouvertes, et menaçant mon père d'un geste terrible. Un mois après, j'entrai à l'université, et dans le cours de l'hiver, mon père mourut d'un coup d'apoplexie à Pétersbourg, où il venait de se fixer avec ma mère et moi. Quelques jours avant sa mort, il reçut de Moscou une lettre qui le bouleversa. Il alla demander je ne sais quoi à ma mère, et on dit même qu'il pleura, lui, mon père. Dans la matinée du jour où il mourut, il avait commencé une lettre en français et elle m'était destinée. « Mon fils, disait-il, crains l'amour d'une femme, crains ce bonheur et ce poison. » Après sa mort, ma mère envoya à Moscou une somme d'argent assez considérable. Près de 4 ans s'écoulèrent. Je venais de sortir de l'université et ne savais trop encore ce que j'allais entreprendre et à quelle porte je devais frapper. En attendant, je flânais sans rien faire. Un beau soir, je rencontrai Maïdanov au théâtre. Il s'était marié et avait pris du service. Mais il était toujours le même. Comme autrefois, il s'enthousiasmait et tombait dans le découragement sans aucun motif. « Vous savez, me dit-il entre autres choses, que Madame Dolski est ici. »« Madame Dolski, ah non, je ne la connais pas. » « L'auriez-vous oublié, la jeune princesse Asekine, dont nous étions tous si amoureux et vous aussi. Vous rappelez-vous à la campagne près de Neskouchnoï ?»« Ah, elle a épousé un monsieur Dolski. Oui !»« Et elle est dans la salle ?»« Non, non, mais à Pétersbourg. Elle vient d'arriver ici pour se rendre en pays étranger. » « Et qu'est-ce que son mari ?» lui demandai-je. « Oh, un charmant garçon qui a de la fortune. Nous avons servi ensemble à Moscou. Vous comprenez qu'après cette histoire, enfin, vous devez en être parfaitement instruit. » Maïdanov sourit d'un air significatif. Elle devait trouver difficilement un parti. Il y avait eu des suites. Mais à une femme d'esprit comme elle, tout est possible. Allez la voir, elle sera heureuse de vous serrer la main. Elle a encore embelli. Maïdanov me donna l'adresse de Dinaïda. Elle était descendue à l'hôtel Demuth. Mes anciens souvenirs se ranimèrent. Je me promis d'aller rendre visite le lendemain même à mon ancienne passion. Mais je ne sais quelles affaires m'en empêchèrent. Une semaine, 2 semaines se passèrent. Et lorsque je me rendis à l'hôtel et demandai Madame Dolski, on me répondit qu'elle était morte presque subitement en couche 4 jours auparavant. Je sentis comme un coup qui me frappait au cœur. L'idée que j'aurais pu la revoir et que je ne l'avais pas vue, et que je ne la reverrais jamais, cette idée affreuse s'empara de moi avec toute la puissance d'un implacable reproche. « Morte !» répétai-je en regardant le Suisse d'un air hébété. Puis je gagnai lentement la rue et me dirigeai au hasard. Tout le passé avait reparu soudainement à mes yeux. Voilà donc comment devait finir cette jeune existence, si pleine d'ardeur et d'éclat. Voilà le but auquel elle se hâtait tant d'arriver. Tout en y pensant, je me rappelais ses traits chéris, ses yeux, sa chevelure, maintenant enfoui dans une caisse étroite, dans une obscurité souterraine et humide. Là, à peu de distance de moi, qui était encore plein de vie pour le moment, et peut-être à quelques pas du lieu où reposait mon père, je pensais à tout cela. Je m'efforçais de me le représenter, et en attendant, ces vers de Pouchkine semblaient retentir à mon oreille. Des lèvres indifférentes m'ont annoncé la triste nouvelle, et je l'ai apprise avec indifférence. « Oh, jeunesse, jeunesse, tu te ris de tout. Tu sembles disposer de tous les trésors de l'univers. La douleur est une distraction pour toi. Le chagrin même s'y est à ton visage. Tu es confiante et audacieuse. Tu dis, moi seul je vis, voyez. » Et pourtant tes propres jours courent et se perdent sans laisser de traces, et tout se dissipe en toi, tout se fond comme la cire, comme la neige au soleil. Et qui sait, peut-être le secret de ton charme ne consiste-t-il pas dans la possibilité de tout entreprendre, mais dans la possibilité de penser que tu peux tout entreprendre. Il consiste précisément en ce que tu t'imagines, jeter au vent tes forces que tu ne saurais employer à un autre usage. Il consiste en ce que chacun de nous Ce croit alors démesurément prodigue et se suppose sérieusement en droit de se dire « Oh, que n'aurais-je pas fait si j'avais mis le temps à profit ?» Et moi aussi, quelles n'étaient pas mes espérances? Quel avenir brillant n'entrevoyais-je pas lorsque j'accompagnais à peine d'un soupir, d'un sentiment de tristesse, l'apparition passagère de mon premier amour qui s'était soudainement ranimé dans ma mémoire? Et pourtant, que s'est-il réalisé de tout ce que j'espérais alors? Maintenant que les ombres du soir commencent à s'allonger sur ma vie, me restait-il rien de plus précieux et de plus pur que le souvenir de cet orage matinal, printanier, qui a passé si vite sur ma tête insouciante? Mais j'ai tort de me calomnier. Alors même, à cette époque de ma jeunesse oublieuse, je ne restais pas sourd à la voix plaintive qui m'appelait, à l'évocation, à l'appel solennel qui m'arrivait de la tombe. Je me souviens que quelques jours après avoir appris la mort de Zinaïda, j'assistais de mon plein gré et par une sorte d'entraînement à celle d'une pauvre vieille femme qui habitait dans la même maison que nous. Couverte de haillons, étendue sur des planches, un sac sous la tête, elle avait eu une agonie longue et pénible. Toute sa vie s'était passée dans une lutte amère contre des besoins journaliers. Elle n'avait connu aucun plaisir, elle n'avait pas goûté au miel du bonheur. Il semblait qu'elle eût dû se réjouir de la mort qui lui apportait la liberté et le repos. Et cependant, tant que son corps décharné résista, tant que sa poitrine se souleva péniblement sous la main glacée qui l'oppressait, tant que ses dernières forces ne l'eurent pas abandonné, la pauvre vieille ne cessa de se signer en murmurant « Seigneur, pardonnez-moi mes péchés !» C'est seulement avec la dernière lueur de conscience que l'expression de terreur que lui causait la mort s'effaça de ses yeux. Je me souviens aussi que là, au lit de mort de cette pauvre vieille, j'eus peur pour Zinaïda et me sentis le désir de prier pour elle, pour mon père et pour moi. La lecture finie, Vladimir Pietrovitch baissa la tête comme dans l'attente d'une première parole. Mais ni Sergueï Nikolaïevitch, ni le maître de la maison ne rompirent le silence. Vladimir lui-même ne levait pas les yeux de son cahier. « Je crois m'apercevoir, messieurs, dit-il enfin, avec un sourire contraint, que ma confession vous a plu médiocrement. »« Non, répondit Sergueï Nikolaïevitch, mais, quoi mais ?»« Ben, je veux dire que... nous vivons dans un temps étrange et que nous sommes nous-mêmes d'étranges gens. » En quoi ? Oui, nous sommes d'étranges gens, répéta Sergueï Nikolaïevitch. Vous n'avez rien ajouté à ce que vous nommez votre confession, n'est-ce pas ? Non, rien. Cela se voit du reste. Eh bien, il me semble qu'en Russie seulement, « une pareille histoire est possible ?» interrompit Vladimir. « Alors donc ?»« Non, vous ne m'avez pas finir ma phrase. Je voulais dire qu'en Russie seulement, un pareil récit est possible. » Vladimir se tut un instant. « Quelle est votre opinion à vous ? » demanda-t-il en se tournant vers le maître de la maison. Oh, « Je suis de l'avis de Sergueï Nikolaïevitch, » répondit celui-ci. « Mais ne vous effrayez point. » Nous ne voulons pas dire par là que vous soyez un homme pervers, au contraire. Nous voulons dire que les conditions sociales au milieu desquelles nous avons tous grandi se sont formées chez nous d'une façon toute spéciale, qui n'avait jamais été et qui probablement ne sera plus jamais. Votre récit simple et dépouillé d'artifice nous a inspiré une sorte d'effroi. Non, qu'il nous soit choqué comme immoral. Il recèle quelque chose de plus sombre et de plus profond qu'une simple immoralité. Personnellement, vous êtes à l'abri de tout reproche, n'ayant commis aucune faute. Mais à chaque ligne de votre récit, perce je ne sais quelle faute générale commune à tout un peuple que j'oserais presque appeler un crime national. Oh, Quel grand mot pour une petite chose, fit observer Vladimir. Le cas est petit, mais la chose ne l'est point. Il y a, je le répète, et vous le sentez vous-même, il y a, comme le dit un certain soldat dans Hamlet, something in rotten in the state of Denmark. Espérons en tout cas que nos enfants ont autre chose à raconter de leur jeunesse et qu'ils le rencontreront autrement. Fin.